إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد ورسوله. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأحمد الله وأشكره أن يسرنا لهذا وأن وفقنا في شهر مبارك وفي بيت من بيوت الله وفي يوم من خير الأيام أن نتدارس فيما بيننا مادة عظيمة، ألا وهي الفقه الإسلامي، التي بها وجدير لها أن يتفقاها حتى يعبد العبد ربه على بصيرة. فبمناسبة شهر رمضان نحاول أن نتدارس فيما بيننا طوال هذه الأيام المباركة في هذا المسجد المبارك مع هذه الوجوه الطيبة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بباب الصيام. لا شك أن العبد يعبد ربه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وهذه هي حقيقة التقوى، فلا شك أن يتصدرها كل مسلم ومسلمة بالعلم، فلا تصح عبادة إلا بالعلم. ولهذا بمناسبة هذا الشهر المبارك ومع مشاورة مع مسؤولي المسجد هذا، نحاول أن نتدارس أحاديثا متعلقة بهذا الركن العظيم ألا وهو الصوم. وذكرنا في دروس سابقة الذكر والحمد لله ختمناها بحمد الله تعالى، وكانت مقدمة في بيان هذه الأحكام، فذكرنا منها ما ينبغي وما يجب معرفته. لذا أحببنا أيضا أن نواصل هذه الدروس، وسائلنا الله أن يوفقنا لها طوال هذا الشهر أن نتدارس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بهذا الركن العظيم ألا وهو الصوم. والأحاديث كما تعلمون كثيرة ومتواترة، وربما لا يكفينا دراستها شهورا، لكن الحمد لله اعتنى أهل العلم بتدوين هذا العلم العظيم ألا وهو مادة الفقه الإسلامي، فدونوها في كتب شتى، منها المقصر ومنها المطول ومنها المتوسط. فاخترت بمناسبة هذه الجلسات المباركة أن نتدارس كتابا عظيما معروفا بين طلبة العلم وعلمائهم بالأخص وعند عامة الأمة بالعموم، ألا وهو كتاب عمدة الأحكام، ألا وهو كتاب عمدة الأحكام. فاقتصرنا في مدارسة باب الصيام من هذا الكتاب القيم ألا وهو كتاب عمدة الأحكام. سنحاول خلال هذا الشهر أن ندرس كل الأحاديث المتناولة والمتناولة لهذا الركن ضمن هذا الشهر المبارك، ونحاول إن شاء الله تعالى كما سبق ذكره ربما مع أخينا عبد الرحمن أنه الهدف من هذه الجلسات التي تكون بين يومي الجمعة والسبت بعد صلاة العصر ستكون مدارسة فيما بيننا وقراءة من كتب أهل العلم لهذه الأحاديث العظيمة التي تخص باب الصوم. وبالمناسبة نطلب من الحاضرين ولا راغمين وملزمين أن تجتمعوا في هذه الجلسة المباركة في هذا المسجد المبارك في هذا الشهر المبارك أن تدارسون إن شاء الله تعالى في هذه المادة المتعلقة بمادة الصيام من هذا الكتاب، وأيضا أحببنا أيضا إضافة وزيادة على التفقه وفهم هذه الأحاديث إن شاء الله تعالى نطلب منكم كما سبق ذكره وهو طلب يسير ربما، ألا هو حفظ هذه الأحاديث. فأنصح نفسي وإياكم بالحفظ، وقد اعتنى به العلماء قديما وحديثا، ولا شك أنه معين على الطلب. الحفظ عباد الله معين على طلب العلم. فاحفظوا 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 ما تيسر لكم، ما تيسر لكم من آي القرآن أو من أحاديث الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فنحاول ونطلب منكم إن شاء الله تعالى ما تيسر من وقتكم ومن ظروفكم أن تحفظوا هذه الأحاديث. وقد وبالمناسبة نسختها في صفحات تعد على الأصابع، فمن أراد تحصيل هذه الأحاديث وهي موجودة بالعربية كما تعلمون فليأخذ نسخة منها حتى يواصل معنا ويتابع معنا. فمن أراد التحصل على نسختنا الآن فليأتي وليأخذها إن شاء الله تعالى، وهي موجودة باللغة العربية. فنحاول كما ذكرت بعد الفهم وذكر ما يؤخذ من الأحاديث وذكر شرح بسيط يسير من هذا من لكل حديث، نطلب منكم أن تحفظوا الأحاديث. ومن أراد أن يشاركنا في هذه الجلسة وفي هذه الدورة إن شاء الله تعالى سيجازى إن شاء الله تعالى في نهاية الشهر، بعدما نحاول ويكون هدفنا أيضا هو إكمال هذه الأحاديث، أن نجازي حفاظ هذه الأحاديث بكتب عديدة وشتى في كل الفنون. فنحاول فهذا من باب التشجيع على الحفظ هذه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكتاب القيم، ألا وهو كتاب عمدة الأحكام. ربما سأذكر مؤلفه وبعض شروحه إن شاء الله تعالى حتى يكون يعني معلوما عند الحاضرين، حتى نعرف من أين نأخذ علمنا وبالأخص أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. فسأبدأ إن شاء الله تعالى ببيان المؤلف وبعض الشروح قدرا يسيرا حتى نشرع في الأحاديث. وفي الحقيقة مجموع هذه الأحاديث التي سنتدارسها طوال هذا الشهر العظيم مجموعها 34 حديثا، 34 حديثا جمعت غالب أحكام الصيام. ففي الحقيقة يكفينا أن نتدارس 5 منها كل جمعة وخمسا منها كل سبت، فبإذن الله تعالى سنختم بإذن الله تعالى كتاب الصيام من هذا الكتاب القيم. Donc je viens de dire, à l'occasion du mois du Ramadan, inshallah ta'ala, on va consacrer des assises le jour du vendredi et le samedi après la prière du Salat al-Asr, inshallah ta'ala, dans cette mosquée. Et vous savez très bien l'importance d'apprendre la science. Et la science est une condition pour la validité de n'importe quelle adoration. Donc c'est l'occasion de profiter dans ce mois béni, surtout on va le commencer aujourd'hui dans ce jour béni, Inch'Allah ta'ala, dans cette mosquée béni, Inch'Allah ta'ala aussi, avec ses visages, Inch'Allah ta'ala. Donc on va essayer d'étudier ensemble tous les hadiths du livre Umdat al-Ahkam. Ce livre il est très connu entre les demandeurs de science et les savants en particulier, et aussi même entre les gens, il y a certes parmi nous qui le connaissent. C'est un livre qui regroupe les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel on va citer son auteur et donner certains éléments sur ce livre très importants. Donc L'objectif de ces assises, inshallah ta'ala, c'est étudier les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui traitent le sujet du jeûne à l'occasion du mois du Ramadan. Vous savez très bien, chaque moment, on essaye de consacrer des hadiths qui dépendent et qui sont liés à chaque événement. Comme vous l'avez remarqué, à l'occasion du mois du Ramadan, on consacre, on va étudier ensemble les hadiths concernant du jeûne à l'occasion du mois du Ramadan, inshallah ta'ala. Et aussi, le jour où on arrivera aux événements du pèlerinage, ou si on va consacrer des hadiths, on va étudier ensemble, inshallah ta'ala, les jugements concernant le pèlerinage, et etc. Donc chaque événement, inshallah ta'ala, on va lui consacrer certaines assises pour apprendre. Et l'apprentissage, il est très important, il est obligatoire pour chaque musulman et musulmane. Il est obligatoire pour chaque musulman et musulmane parce que certes, la science est une condition pour la validité de n'importe quelle adoration. On ne peut pas adorer Allah et notre Seigneur correctement sans connaître les jugements. Comment on peut valider nos prières si on ne connaît pas certains jugements sur nos prières? Comment on peut valider notre jeûne qui va durer, inshallah ta'ala, un mois, c'est des jours nombrables? Comment on saura que notre jeûne il sera valide, inshallah ta'ala, sans connaître certains jugements? Donc, par déduction, il est nécessaire, il convient à chaque musulman d'apprendre tous les jugements pour adorer son Seigneur correctement. Et c'est l'occasion, surtout dans cette mosquée, alhamdoulilah, qu'Allah nous a facilité, d'étudier, inshallah ta'ala, et c'est l'occasion, on va étudier ensemble, ces hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, concernant le jeûne du Ramadan. Donc, les hadiths, ils sont tirés du livre « Umdat al-Ahkam ». Et l'objectif principal, c'est comprendre ces hadiths et aussi tirer des leçons à partir de ces hadiths. Et un deuxième objectif, ou dont l'association a mis en principe aussi, c'est essayer d'apprendre les hadiths par cœur. L'apprentissage, c'est un moyen pour apprendre la science. Ce n'est pas utile et suffisant de lire un hadith ou de feuiller un livre. Certes aussi, l'apprentissage, il est très très important. Et vous savez très bien, les pieux prédécesseurs, ils donnaient l'importance à l'apprentissage. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris ou ils ont déduit que cela aussi c'est un moyen pour apprendre la science. Et vous savez très bien, Imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, d'après son fils Abdullah, quand ils l'ont interrogé, ils l'ont demandé « Combien ton père apprend de hadith par cœur ?» Il a dit « 1000 hadiths ». C'est-à-dire il apprenait par cœur 1 million de hadiths. Ce n'est pas 2, 3 ou 4 ou 34 hadiths qu'on va étudier, inshallah, pendant ce mois, mais c'est 1000 hadiths, alf hadiths. 1 million de hadiths qu'il le connaissait par cœur. Et nous, on n'a pas l'importance et on n'a pas aussi, on ne fait pas l'effort et aussi manque de volonté pour apprendre la science. Et certes, l'apprentissage, c'est un moyen. Et si vous faites l'effort pour apprendre, vous aurez le résultat qu'après certains moments, certes, c'est utile et vous aurez l'occasion d'apprendre beaucoup, beaucoup de jugements. Pourquoi? Et mémoriser beaucoup de jugements à cause parce que vous avez mémorisé les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que les jugements dans la jurisprudence et en général dans la science, ils sont tirés du Coran et du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il suffit de comprendre ou apprendre ou mémoriser la parole d'Allah et la parole prophétique qui est la sunna nabawiyya thabita, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'occasion, on va étudier, et aussi le deuxième principe, c'est de mémoriser les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'association, alhamdulillah, grâce à Allah, ensuite, à certaines personnes, ils ont essayé de vous récompenser, inshallah ta'ala, par certains livres, et ils y sont nombreux, inshallah ta'ala, dans tous les domaines. Donc celui qui va essayer d'apprendre les hadiths qu'on va étudier, inshallah ta'ala, et pour simplifier, j'ai essayé de vous imprimer les hadiths qui sont là. Celui qui veut prendre un exemplaire, qui vient le prendre, il est en arabe. Certes, en français, on verra, inshallah ta'ala, si on aura l'occasion avec certains frères de participer pour les traduire, inshallah ta'ala, pour au moins mémoriser les hadiths, soit en arabe, soit en français. Mais je veux... نسخت 10 لأن j'ai préparé juste 10 exemplaires. J'ai préparé que 10 exemplaires. Celui qui veut un exemplaire, s'il ne reste plus, il vient me voir, comme ça on lui fera demain après l'Asr, inshallah ta'ala. Parce que ça, ils sont en arabe, donc celui qui sait qu'il va profiter dès maintenant, qu'il prend un exemplaire, et celui qui sait qu'il n'est pas capable de comprendre ou lire en arabe, on va faire l'effort pour vous traduire demain, inshallah ta'ala, de vous ramener un exemplaire en arabe et en français, bi'idhnillah ta'ala. Non, ça c'est le hadith. Ça c'est le premier. Ça c'est la suite. Juste. Ils sont numérotés de 1 à 10. Juste pour là. Là. Là, c'est deux derniers. Ça c'est le reste. J'ai imprimé de la catégorie de 20 hadiths de 10 à 20. Il y a de 20 en 30. Et c'est l'ensemble des 34 hadiths qui vont traiter les règles du jugement concernant le jeûne du Ramadan en général et aussi c'est applicable pour le jeûne surrogatoire. Donc ça, c'est l'objectif de nos assises, donc essayer de profiter. On a choisi un temps bien qui arrange presque la majorité du monde, c'est après l'Asr, le vendredi et le samedi ou le dimanche, Inch'Allah ta'ala, et on vous informera chaque fois dans nos assises quand est-ce qu'il aura lieu la prochaine assise, Inch'Allah ta'ala. Donc, ça, quand vous avez ceux qui ont la feuille, c'est les 10 premiers hadiths. Inch'Allah ta'ala, dans chaque assise, on va consacrer, on va étudier que 5 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 5 hadiths. Et durant le mois du Ramadan, c'est-à-dire chaque week-end, on fera vendredi, samedi à la base, vous saurez que, on va mémoriser, on va étudier presque les 34 hadiths du chapitre du jeûne tiré du livre Umdat al-Ahkam. Juste avant de commencer, je vais lire rapidement l'auteur du livre Umdat al-Ahkam, parce que peut-être parmi nous le connaissent, il est un livre très connu qui englobe les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'auteur, il a donné un nom très important. Il convient à ce livre, il a appelé Umdatu al-Ahkam. Pourquoi al-Umda? Parce que c'est la base. Et al-Ahkam, parce que ça concerne les jugements. Parce que al-Ahkam, c'est le pluriel du mot hukm, qui dans la langue arabe signifie, en français signifie le jugement. Al-Ahkam, c'est les jugements. C'est-à-dire, c'est les bases des jugements de jurisprudence. Donc c'est pour ça, dans ce livre, il a regroupé tous les hadiths concernant de la matière de jurisprudence islamique. Celui qui veut revenir et vous savoir, est-ce que ce jugement a une référence ou un hadith, qu'il revient à un livre, par exemple, Umdat al-Ahkam, qui est un livre de base. Il convient à tout débutant dans la matière de jurisprudence ou du hadith de prendre et de profiter de ce livre. Donc il a appelé son auteur Umdat al-Ahkam. Donc ce livre, il contient que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deux, en plus, pas que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plus, où les deux imams, l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, ils ont approuvé les hadiths. C'est-à-dire la majorité des hadiths, les références de ces hadiths qui se trouvent dans ce livre, qui est Umdat al-Ahkam, ils sont tirés, ou vous les trouvez en général, soit dans Sahih Muslim, ou Sahih al-Bukhari. Il faut savoir que Sahih al-Muslim et Sahih al-Bukhari, c'est les deux livres les plus authentiques parmi les livres de hadith, et en plus, c'est les deux livres les plus authentiques après la parole d'Allah Ta'ala. Ça ne veut pas dire qu'il équivaut la parole d'Allah Ta'ala, mais non, c'est pour ça que j'ai précisé, j'ai dit, et les savants le précisent, dit, huwa min asah kutub al-hadith, et non pas asah al-kutub, مما يعني يوهم أنه ربما يعني يتقي درجة مع كتاب الله عز وجل ولكن العلماء حددوا ودققوا العبارة هو أصح صحيح مسلم وصحيح البخاري أصح كتابي الأحاديث Donc Sahih Bukhari et Sahih Muslim, c'est les livres, c'est les deux références du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les livres les plus authentiques parmi les hadiths, les livres du hadith. Et ce livre, Umdat al-Ahkam, qu'on va étudier inshallah ta'ala, il a extrait les hadiths qu'à partir de ces deux hadiths, c'est-à-dire de Sahih Bukhari et de Sahih Muslim. C'est-à-dire, pourquoi aussi c'est un avantage, c'est-à-dire que tous les hadiths ils sont authentiques. Tous les hadiths qui sont dans Umdat al-Ahkam, si on peut dire 99%, ils sont authentiques. C'est-à-dire parce que l'argument est la preuve, parce qu'ils sont tirés du hadith, des hadiths de deux imams, l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Ce livre qui est Umdat al-Ahkam, son auteur qui est l'imam al-Hafidh Taqiyuddin Abi Muhammad عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 الهجرية رحمه الله تعالى. L'auteur de ce livre عمدة الأحكام c'est le savant connu التقي الدين أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي qui est connu par le شيخ العلامة Taqiyuddin Abdul Ghani al-Maqdisi, décédé à 600 Hijri, dans l'année 600 Hijri. Donc on connaît le livre, le titre du livre, Umdat al-Ahkam, son auteur c'est Abdul Ghani al-Maqdisi, il est connu par ce nom, Abdul Ghani al-Maqdisi, qui est décédé dans l'année 600 Hijri. Ce livre en réalité, Il possède plusieurs explications. Ce livre, il possède plusieurs explications. Je vous donne les explications de ce livre les plus répandues et c'est des explications en référence. Celui qui veut revenir à ces explications, qui revient à une parmi ces explications qu'on va les citer. Parmi Shuruhat de ce livre qui est Umdat al-Ahkam, le livre إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. Je vais donner juste les titres rapidement. Le premier c'est إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد. Un deuxième ouvrage qu'il a expliqué ou qui a expliqué ce livre c'est الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن. Troisième explication de ce livre, خلاصة الكلام على عمدة الأحكام للشيخ فيصل ابن عبد العزيز آل مبارك. Cinquièmement ou quatrièmement, تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام للشيخ محمد ابن صالح العثيمين. Et le cinquième, c'est le livre sur lequel on se base dans nos assises, c'est تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن صالح البسام رحمه الله تعالى. Donc ça c'est les cinq livres qu'ils ont, vous trouvez l'explication de ce livre de عمدة الأحكام. Je les ai classés du premier au dernier et ça c'est parmi les savants qui ont expliqué ce livre qui est très important. Et dans nos assises, inshallah ta'ala, on va se baser sur le livre de Taysir al-Allam, de Cheikh Abdullah ibn Abdurrahman al-Bassam, rahimahullah ta'ala. Vous trouvez, il est répondu, alhamdulillah, en arabe, vous trouvez soit en un seul tome, ou deux tomes selon les éditions. Donc ça, c'est un résumé, c'était juste une introduction. Pour commencer à étudier rapidement les premiers cinq hadiths de ce livre, et demain on continuera les cinq qui restent, Inch'Allah Ta'ala. Le premier hadith, c'est le hadith de Abi Huraira radiallahu anhu qad. Le premier hadith, c'est le hadith de Abi Huraira radiallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه Ça, c'est le premier hadith dans le chapitre du jeûne du livre Umdat al-Ahkam de Cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi al-Mutawaffafi al-Sittumia al-Hijriya rahimahullah ta'ala. Le premier hadith rapporté par Abu Huraira radhiyallahu anhu, il a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. Ne précédez pas le jeûne du Ramadan d'une journée ou de deux jours, sauf un homme qui jeûnait un jeûne, qui le complète ou qui le jeûne. Ça, c'est le premier hadith qui est rapporté par Abu Huraira. في النسخة عندك إلا رجل أو رجلا. نعم يعني حسب النسخ parce que moi dans le livre j'ai illa rajulan et dans une autre version illa rajulun, donc il peut avoir des, si vous entendez, parce que je lis le livre sur lequel je me base. نعم. Donc le hadith لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه. Donc ça, c'est le premier hadith. قال الشيخ رحمه الله المعنى الإجمالي. On va citer juste le sens général du hadith. Ensuite, on va tirer des leçons, on va extraire des leçons tirées de ce hadith. المعنى الإجمالي: الشارع الحكيم يريد التمييز بين العبادات والعادات، ويريد أن يميز بين فروض العبادات ونوافلها ليحصل الفرق بين هذا وذلك. La législation essaie de distinguer entre les adorations et les traditions, et aussi elle veut distinguer entre les actes d'adoration obligatoires et les surrogatoires, pour les distinguer et pour les distinguer. C'est-à-dire pour distinguer entre les actes d'adoration obligatoires et surrogatoires. لذا فإنه نهى عن تقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين. C'est pour cela, il a interdit ou l'a déconseillé de précéder le jeûne du mois du Ramadan d'une journée ou de deux jours. أو نحو ذلك ليكون مفطرا مستعدا لصيام شهر رمضان. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a précisé, il a donné la cause pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déconseillé de précéder le jeûne du mois du Ramadan d'une journée ou deux jours. ليكون مفطرا مستعدا لصيام شهر رمضان. Afin qu'il rompe son jeûne, et c'est-à-dire qu'il se prépare pour le jeûne du mois du Ramadan. إلا ما كان له عادة من صوم كيوم الخميس أو الاثنين أو قضاء تضايق وقته أو نذر لزمه فليصمه لأنه تعلق بسببه بخلاف نفل الصيام المطلق فأقل ما فيه الكراهة. Sauf pour une personne qui a l'habitude du jeûner, comme le jeûne du jour du jeudi ou de lundi et autres, ou si c'est un jeûne pour rattraper. تضايق وقته ou un jeûne pour rattraper des jeûnes manqués, et cette personne il n'a pas le temps pour jeûner, il n'a pas pu le jeûner sauf les derniers jours qui précèdent le jeûne du Ramadan, dans cela il est permis. فليصوم, donc qui le jeûne ou qui les jeûne, لأنه تعلق بسببه, parce que c'est un jeûne d'une cause. Et cette cause, c'est parce que soit il avait l'habitude de jeûner le jeudi, le lundi, ou parce que c'est un jeûne d'un vœu pieux, un nadr, Ou par exemple, c'est pour rattraper des jours manqués. Dans ces cas qu'on vient de citer, il est permis de jeûner juste avant le mois du Ramadan ou précéder le jeûne du Ramadan par ces cas qu'on vient de citer. Par contre, qui est au contraire du jeûne absolu qui ne dépend pas d'une cause. Et le jugement du jeûner juste avant le mois du Ramadan, qu'il est détestable. C'est pour ça que Cheikh il a dit, أَقَلُّ مَا فِيهِ, le minimum de ce jeûne, qu'il est détestable. C'est-à-dire de précéder, c'est-à-dire de jeûner volontairement pour aucune cause avant ou juste avant le mois du Ramadan d'une jour ou deux jours. Donc dans ce cas, les savants, ils ont donné le jugement de ce jeûne qui est minimum, il est détestable. Donc ça c'est le sens général du hadith. مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ, ce qu'on tire de ce hadith ou les leçons tirées de ce hadith. النهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. L'interdiction ou le déconseil de précéder le jeûne du Ramadan d'un jour ou de deux jours. ثانيا, deuxième ce qu'on tire de ce hadith. الرخصة في ذلك لمن صادف قبل رمضان له عادة صيام كيوم الخميس والاثنين. Aussi, la permission du jeûne pour celui ou son jeûne a eu juste avant le mois du Ramadan pour une habitude comme celui qui jeûne le jeûne du jeudi ou le lundi. Troisièmement, min hikmati dhalika wallahu a'lam, la sagesse ou la raison pour laquelle le prophète nous a déconseillé, تَمِيزُ فَرَائِدِ الْعِبَادَاتِ مِنْ نَوَافِلِهَا, c'est de distinguer les actes d'adoration obligatoires et les surérogatoires. وَالْإِسْتِعْدَادُ لِرَمَضَانَ بِنَشَاطٍ وَرَغْبَةٍ, et aussi, c'est pour se préparer pour le jeûne du Ramadan avec une bonne neda et avec une bonne volonté de le jeûner. وَلِيَكُونَ الصِّيَامُ شِعَارَ ذَلِكَ الشَّهْرِ الْفَاضِلِ الْمُتَمَيِّزِ بِهِ, et aussi pour que le jeûne, c'est-à-dire il débute son jeûne, et qu'il soit le début de ce mois sacré. Donc ça, c'est quelques leçons tirées de ce hadith, du premier hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu. Le deuxième hadith aussi, et vous allez remarquer que les trois premiers hadiths, en réalité, on les a déjà traités, on les a déjà étudiés, parce que c'est normalement ces hadiths qui normalement elles précèdent le jeûne du Ramadan. C'est pour ça, Cheikh Abdel Ghani El Mardessi dans ce livre, il a choisi ces hadiths parce que c'est le début. Et par la suite, vous allez voir, on va étudier tout ce qui annule le jeûne et aussi l'expiation al-kafara et comment rattraper les jours et aussi le jugement du jeûne pour le voyageur et aussi par la suite vous allez voir on va parler aussi sur les jeûnes surrogatoires et on va parler sur Laylat al-Qadr aussi al-i'tikaf, on va parler sur al-wisal, tous ces sujets ils seront par la suite. Le deuxième hadith, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. Le deuxième hadith rapporté par عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كلاسو ساتيسفي 2 a dit, j'ai entendu le prophète صلى الله عليه وسلم dire, إِذَا رَأَيْتُمُهُ فَصُومُ, si vous le voyez, vous jeûnez. C'est-à-dire, si vous voyez le croissant. وَإِذَا رَأَيْتُمُهُ فَافْطِرُوا, et si vous le voyez, vous rompez le jeûne. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ, et s'il y a eu un obstacle qui vous empêche de le voir, le prophète sallam il a utilisé le terme فَاقْدُرُوا لَهُ. On ne peut pas traduire cette cette expression si on ne connaît pas le sens exactement. Le résumé c'est, de cette expression, c'est de compléter le mois de Sha'ban par 30. Pourquoi j'ai choisi cette tradition de cette expression qui fait qu'douru lahu? Pourquoi? Parce que les savants se sont divergés sur le sens, c'est-à-dire dans la langue arabe, faqduru lahu, dans lequel le cheikh il a cité, et c'est pour ça il a dit le sens de faqduru lahu, c'est-à-dire atimu iddata sha'ban 30. Le cheikh il a choisi de le sens du terme faqduru, c'est de compléter le compte du mois du sha'ban, qui est le mois qui précède le mois du ramadan. C'est-à-dire on le complète du 30 dans le cas si on l'a pas vu, ou dans le cas, comme il a dit le hadith, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ. الشيخ حفظ الله تعالى, il a dit غُمَّ عَلَيْكُمْ بِالْبِنَاءِ لِمَنْ مَجْهُولِ اسْتَتَرَ عَلَيْكُمْ بِحَاجِبٍ مِنْ غَيْمٍ وَغَيْرِهِ غُمَّ بِضَمِّ الْغَيْنِ المعجمة وتجديد الميم. فاقدروا له يعني قدروا له الحساب فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وقيل معناه اقدروا أي ذيقوا بأن يضيق على شعبان فيجعل 29 يوما. Donc on remarque le cheikh رحمه الله تعالى, il a dit que le sens faqduru lahu signifie compléter le compte du Sha'ban par 30 jours. Et il a dit, ils ont dit, c'est-à-dire certains savants, ils ont dit, le sens de faqduru, c'est-à-dire dhayiqu lahu, c'est-à-dire mettez-le en 29, ou considérez le mois de Sha'ban de 29. Le sens général du hadith, أحكام الشرع الشريف تبنى على الأصل فلا يعدل عنه إلا بيقين. Ça c'est une règle générale dans la législation. Il a dit les jugements dans la législation se basent sur la, c'est-à-dire se basent sur une base. فلا يعدل عنه إلا بيقين. C'est-à-dire on reste sur la chose ou sur cette base sauf avec une certitude, comme il a dit à Cheikh Habibullah Ta'ala. وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ شَعْبَانِ. Il a donné un exemple, et parmi ceux-là, que la base, ou le par défaut, c'est que le mois de Sha'ban, il reste.
وَأَنَّ الذِّمَّةَ بَرِيئَةٌ مِنْ وُجُوبِ الصِّيَامِ. وَمَا دَامَ أَنَّ شَعْبَانَ لَمْ تكمل عدته 30 يوما فيعلم أنه انتهت أو فيعلم أنه انتهت أو يرى هلال رمضان فيعلم أنه رحل.
Donc en remarquant, il a dit ومن ذلك أن الأصل بقاء شعبان. Et parmi cela, c'est la base que le mois du Sha'ban reste.
وأن الذمة بريئة من وجوب الصيام.
Et l'âme, ou l'être humain, il n'est pas redevable de l'obligation du jeûne.
وما دام أن شعبان لم تكمل عدته 30 يوما فيعلم أنه انتهت أو يرى هلال رمضان فيعلم أنه دخل أو رحل.
نعم. Donc Cheikh il a dit, et l'âme ou l'être humain, il n'est pas redevable de jeûner le mois du Ramadan, parce que le mois du Sha'ban, il n'était pas complété de son compte de 30 jours. Sauf si le croissant du Ramadan, il était vu, dont cela prouve ou approuve l'entrée du Ramadan.
ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أناط صيام شهر رمضان وفطره برؤية الهلال.
C'est pour cela le prophète صلى الله عليه وسلم il a basé le jeûne du mois du Ramadan et la rupture du jeûne du mois du Ramadan avec
la vue du croissant. فَإِنْ كَانَ هُنَا فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِنْ غَيْمٍ أَوْ قَتَرٍ أَوْ نَحْوِهِمَا أَمَرَهُمْ أَنْ يَقْدِرُوا حِسَابَهُ. S'il y a eu un empêchement, un obstacle, comme un nuage, ou qatarun, c'est un nuage avec des poussières, avec la poussière, ce qu'on appelle al-qatar, ou autre chose qui empêche la vue du croissant, dans ce cas, il vous a ordonné de compléter le mois du Sha'ban de 30 jours. وذلك بأن يتم شعبان 30 ثم يصوم لأن هذا بناء على أصل بقاء ما كان على ما كان. Et ça, c'est la règle, c'est la règle d'après la règle, وهي بناء على أصل بقاء ما كان على ما كان. Comment on pourra le traduire, Abd al-Rahman? Naam, les choses, elles restent telles qu'elles sont. Donc ça, c'est une règle dans la législation. Baqa ma kana ala ma kana. Et la preuve que quand on est toujours au mois du Sha'ban et on n'a pas toujours vu le croissant du Ramadan, c'est-à-dire la chose, elle reste telle qu'elle. C'est-à-dire, on reste toujours dans le mois du Sha'ban. C'est la raison pour laquelle on se base et on dit, tant qu'on est au mois du Sha'ban et on n'a pas encore vu le croissant du Ramadan, ou il y a eu un obstacle comme un nuage qui a empêché la vue du croissant, ou un qatar, c'est-à-dire un nuage avec la poussière, ou un autre obstacle en général qui empêche la vue du croissant du Ramadan, dans ce cas, qu'est-ce qu'on on se référencie à la règle et on référencie au hadith du prophète, il a dit faqduru lahu, c'est-à-dire compléter le jeûne c'est-à-dire compléter le mois du Sha'ban de 30 jours. Wallahu ta'ala a'lam. Donc ça, c'est le sens général du hadith. Certes, il y a toujours des points de divergence dans lesquels j'évite d'en rentrer. C'est pour ça que je préfère qu'on reste sur le hadith, l'explication générale du hadith et certaines leçons tirées de ce hadith. Au moins, on essaie de mémoriser le hadith et la base et au moins une compréhension simple de ce hadith. Le Cheikh Abdullah Ta'ala dit ce qu'on tire de ce hadith, أن صيام شهر رمضان معلق برؤية الناس أو بعضهم للهلال. ورد ابن دقيق العيد تعليق الحكم به على حساب المنجمين. وبين الصنعاني أنه لو توقف الأمر على حسابهم لم يعرفوا إلا قليل من الناس والشرع مبني على ما يعرفه الجماهير. Donc ça, il a dit que le jeûne du mois du Ramadan se base sur la vue des gens du croissant. C'est-à-dire, l'entrée du mois du Ramadan se base sur la vue et non pas sur les calculs. Il a cité que Ibn Dariq al-Eid, il a répliqué à ceux qui se basent sur les calculs pour estimer l'entrée ou estimer le début du mois du Ramadan. Et aussi, il a dit, l'imam al-San'ani, un autre savant qui est reconnu, il a dit, si le début du mois du Ramadan se base sur les calculs et se base à cette catégorie qui connaissent les calculs, certes, la religion se référence qu'à cette catégorie de cette personne qui connaissent les calculs. Et il a dit, Cheikh, il a dit, وَالشَّرْعُ مَبْنِيٌ عَلَى مَا يَعْرِفُهُ الْجَمَاهِيرِ. Et la religion ou la législation, elle est à la base connue pour tout le monde. À la base, elle est connue pour tout le monde. C'est pour ça qu'on le prophète a dit, إِذَا رَأَيْتُمُ فَصُومُ. Si vous le voyez, vous jeûnez. Et ça, certes, c'est-à-dire, il s'adresse à tout le monde et c'est pas à une catégorie bien précise, et c'est-à-dire en particulier, certes, ou c'est-à-dire cette catégorie qui se base sur les calculs. Donc c'est la raison pour laquelle on se référencie à la vue pour l'entrée du Ramadan. Aussi, أنه إذا لم يرى الهلال لم يصوم إلا بتكميل رمضان 30 يوما وكذلك لم يفطر إلا بتكميل رمضان 30 يوما. Aussi, ce qu'on tire de ce hadith est, si le croissant n'était pas vu, certes on ne jeûne pas, qu'après compléter le mois du Sha'ban de 30 jours. Et aussi pour la rupture du jeûne, c'est-à-dire à la fin, certes pour le Eid, ce qu'on a pour le Eid al-Fitr, certes, c'est-à-dire la fin du Ramadan aussi, se base sur la vue, et même aussi comme il a dit, si ça nécessite de compléter le mois du Ramadan de 30 jours. Donc ça, c'est ce qu'on tire de ce hadith, et aussi il a donné une dernière faïda. إنه إن حصل غيم أو قتر قدروا عدة شعبان تماما 30 يوما. S'il y a eu un obstacle comme un nuage ou un nuage avec la poussière, qu'il complète ou qu'il compte le mois du Sha'ban de 30 jours. وقال الصنعاني جمهور الفقهاء وأهل الحديث على أن المراد من فقدروا له إكمال عدة شعبان 30 يوما كما فسره في حديث آخر. Il a dit, la majorité des savants de jurisprudence et aussi les savants du hadith, ils ont dit que le sens du terme faqduru dans le hadith signifie ou a le sens de compléter le mois du Sha'ban de 30 jours, comme il a expliqué un autre hadith. Et en réalité, il y a une autre version de ce hadith où on a exactement l'expression فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّ عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ. Et vous trouvez ça dans le Muntaqa al-Akhbar, et vous trouvez l'explication de l'imam Shukan et de ce hadith, où c'est une deuxième version de ce hadith qui explique cette expression فَقْدُرُولَهُ. Parce que les savants se sont divergés que du sens فَقْدُرُولَهُ. Est-ce que ça signifie mettez ou considérez que le mois de Sha'ban 29 ou le contraire, complétez-le en 30 jours. Et alhamdoulilah, il y a un autre hadith qui a expliqué et qui tranche, et où le prophète il a dit, si vous le voyez pas, si vous le voyez pas, vous complétez le mois du Sha'ban 30 jours. Et c'est pour ça les savants se basent sur cette version de hadith qui renforce que le sens faqduru lahu signifie compléter le jeûne du Sha'ban de 30 jours. Donc ça, c'est ce qu'on tire du hadith, du deuxième hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui a mémorisé le premier hadith et le deuxième hadith? Qui connaît le premier hadith et le deuxième hadith? Par cœur. Aïe, faites un effort pour apprendre. On va essayer de les apprendre, même si on peut terminer aujourd'hui, ça serait bien, inshallah. Le premier hadith de qui? De Abi Hurayra radhiyallahu anhu, il a dit quoi? MashaAllah, farakallah. Vas-y, même en français, on va essayer, après on va terminer. Vas-y, faddal. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا سوف رجلا كان يصوم صوما فليصوم. Une phrase. Le deuxième hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما عن أبي هريرة عن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا. Si vous le voyez, vous jeûnez. وإذا رأيتموه فافطروا. Et si vous le voyez, vous rompez le jeûne pour la fin du Ramadan. Et le troisième, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدُورُوا لَهُ. Alhamdulillah. Le troisième hadith, ce qui est très important, c'est les trois hadiths qui restent, ça, ou les deux hadiths qu'on va étudier par la suite, c'est que ça concerne As-Sahur, le repas de fin de nuit qui est très important. عن أنس, mémorisez, عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الفقه تسحروا فإن في السحور بركة سيتو تسحروا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً. Sahur, بفتح السين. Dans le hadith, on a le terme sahur. Parce qu'aussi, on a un autre mot qui est suhur. Avec la fatha, بفتح السين ما يتصحر به. Donc, as-sahur, c'est le repas. As-sahur, c'est le repas de fin de nuit. وبضمها الفعل. As-suhur, c'est l'acte. C'est le fait de manger. Est-ce que c'est clair? Donc, as-sahur, c'est le repas. As-suhur, c'est l'acte. C'est le fait de manger. Le fait de manger. Al-ma'na al-ijmal. C'est un hadith court et aussi il y a beaucoup de leçons. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسحر الذي هو الأكل والشرب وقت السحر استعدادا للصيام. ويذكر الحكمة الإلهية فيه وهي حلول البركة والبركة تشمل منافع الدنيا والآخرة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le son général du hadith, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne de faire sahur. الذي هو الأكل والشرب وقت السحر. Qui signifie ce sahur où le prophète il a dit tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Il a dit manger, comment on explique tasahharu? Prenez le repas de fin de nuit parce que certes dans ce repas il y a la baraka, la bénédiction. Naam. Certes dans ce repas il y a la bénédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne de prendre ce repas de fin de nuit qui est manger et boire dans le temps de As-Sahar. Isti'dadan lis-siyami. Pourquoi, ou la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de manger ou de prendre ce repas de fin de nuit pour se préparer pour le jeûne. Wa yadhkuru al-hikmata al-ilahiyya fi. Et aussi, il donne la sagesse et la raison pour laquelle, pour cela, c'est hululul baraka, la bénédiction. Parce que le prophète a dit, fa inna fi sahuri baraka. Certes, dans ce repas, il y a la bénédiction. Wa min barakati sahuri ma yahsulu min al-i'anati ala ta'ati Allah ta'ala fi an-nahar. Elle est où cette bénédiction? Quand le prophète il a dit tasahharu fa inna fi as-sahuri baraka, il a dit prenez ce repas de fin de nuit, certes ce repas il porte la bénédiction. Où sont ces formes ou ces façons de cette bénédiction? Ça renforce le jeûneur. Aussi, fi le fi'li wa ta'am. Quoi d'autre? On va arriver à ça. Masha'Allah, barakallah. Le cheikh, il va le citer. Il donne beaucoup de choses qui sont formes de cette baraka. Parce qu'on pense que c'est juste pour se renforcer le corps. Non, il y a plus de ça. La baraka, elle est, comme le cheikh l'a dit, dans ce dunya et dans au-delà, c'est-à-dire le jour du jugement. فمن بركة السحور ما يحصل به من الإعانة على طاعة الله في النهار. Parmi les formes de cette bénédiction, c'est avoir la force et la force d'adorer Allah dans la journée. Et ça, certes, c'est une baraka. فإن الجائع والظامئ يكسل عن العبادة. Certes, celui qui est fainéant ou celui qui a faim, certes, il fera l'adoration avec paresse. وَمِنْ بَرَكَةِ السَّحُورِ et aussi la cité وَمِنْ بَرَكَةِ السَّحُورِ أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا تَصَحَّرَ لَا يَمَلُّ إِعَادَةَ الصِّيَامِ خِلَافًا لِمَنْ لَمْ يَتَصَحَّرْ فَإِنَّهُ يَجِدُ حَرَجًا وَمَشَقَّةً يُثْقِلَانِ عَلَيْهِ الْعَوْدَةَ إِلَيْهِ. Et aussi parmi la bénédiction de Sahur, que le jeûneur, si il prend ce repas de fin de nuit, il n'aura pas marre de refaire le jeûne, par contre, au contraire de celui qui ne prend pas le repas de fin de nuit, certes, il trouvera la difficulté pour revenir à jeûner. Et aussi,
ومن بركة السحور الثواب الحاصل من متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام.
Troisième chose et troisième forme de bénédiction, c'est le fait de suivre, avoir la récompense du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le fait que de pratiquer sahur, certes, on a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et certes, on aura la récompense pour le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, quatrièmement, وَمِنْ بَرَكَتِهِ أَيْضًا أَنَّ الْمُصَحِّرَ يَقُومْ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى وَيَسْتَغْفِرُهُ ثُمَّ يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ جَمَعًا.
Parmi les bénédictions, le fait de prendre le repas de fin de nuit aussi, c'est que celui qui prend le repas de fin de nuit, il se lève à la fin de la nuit. Il se lève à la fin de la nuit, et ensuite, et cela aussi, il peut invoquer Allah dans ce temps, et aussi, il fera la prière de l'aube en groupe.
خلاف من لم يتصحر وهذا مشاهد.
C'est-à-dire au contraire de celui qui ne prend pas le repas fin de nuit, certes, il ne se lève pas ou il ne fera pas cela, c'est-à-dire il ne se lève pas, il n'invoque pas Allah dans son temps, et certes, il n'assiste pas la prière de l'aube, et cela, il est par constat. Et c'est vrai, alhamdulillah, on remarque, au mois du Ramadan, la prière du l'aube, on est nombreux, alhamdulillah. On est content. Quand on voit presque la mosquée remplie, alhamdulillah. Ce qu'on conseille, c'est de continuer cela soit à l'occasion du mois du Ramadan ou en dehors du mois du Ramadan. C'est-à-dire celui qui peut pendant le mois du Ramadan, il est capable de le faire à n'importe quel moment. Comment on peut le faire que pendant une durée d'un mois et on se prive de venir et faire la prière en groupe en dehors du mois du Ramadan?
Naam. فإن عدد المصلين في صلاة الصبح مع الجماعة في رمضان أكثر من غيره من أجل السحور.
Et c'est vrai, il a dit, Cheikh Rahimahullah Ta'ala, il a dit, on remarque le nombre de personnes qui font la prière, de la prière du l'aube, en groupe, ils sont plus nombreux que en dehors du Ramadan. La cause, c'est quoi? Parce que ceux qui ont pris le repas de fin de nuit, certes, ils se sont réveillés, et certes, ils se sont réveillés, donc vu qu'ils sont réveillés, certes, ils viennent, ils complètent cela en faisant la prière en groupe. Remarquez la baraka de faire as-sahur. La baraka, tous ces points, ou c'est les points de forme de bénédiction de fait de prendre as-sahur. Vous remarquez ce hadith, c'est juste une expression, tasaharu. Fa'inna fi as-sahuri baraka. Mais on remarque, alhamdulillah, tout c'est le son et c'est les formes de bénédiction tirées de ce hadith. Ma yukhadu min al-hadith. Ce qu'on tire de ce hadith, je vais donner deux jugements. Quel est le jugement de sahur? Est-ce que il est préférable ou il est obligatoire? Pourquoi on pose cette question? Parce que le prophète, il a ordonné, il a dit tasaharu. C'est un ordre. Donc, est-ce qu'il est préférable de faire as-sahur ou il est obligatoire de le faire? Parce que c'est très important de connaître les jugements des choses. C'est vrai de connaître sahur qu'il existe ou ça fait partie dans la législation. Mais le plus important, c'est-à-dire quand on apprend le hadith et surtout le jugement. Parce que si on ne connaît pas le jugement, peut-être on a délaissé une obligation. Mais dans ce qu'on tire aujourd'hui, est-ce qu'il est préférable ou est-ce qu'il y a une obligation de le faire? C'est une obligation, c'est-à-dire celui qui ne le fait pas, il commet un péché? Non. C'est pas une obligation. Hein? Il est préférable. Pourquoi il est préférable? Pourtant, on a un amr. On a un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à la base, elle est claire, elle est évidente que al-amr yufid al-wujub. Ça c'est à la base, il y a une règle dans les fondements de jurisprudence, la base des choses que l'ordre implique l'obligation. Ça il faut savoir, L'ordre implique l'obligation. Sauf si un hadith qui contredit. Sauf si un hadith le contredit, c'est-à-dire il descend d'un degré d'une obligation à un degré de préférence. Et c'est le cas. C'est-à-dire, si on n'avait pas un autre hadith, les savants, ils auront donné le jugement que c'est une obligation de faire sahur. Mais ce qui est le contraire, c'est pour ça que le cheikh a dit, ce qu'on tient tout ce hadith, « Istihbabu sahuri wa mkithali al-amri al-shar'i bifi'lihi » La préférence où il est préférable de faire as-sahur. Zahiru, ce qu'on tire de ce hadith aussi, Zahiru al-amri al-wujub. L'apparence de ce hadith implique que c'est une obligation. Pourquoi? Parce qu'on a un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tasaharu. Il a dit de l'apparence, l'ordre implique l'obligation. Walakin. Mais, ثبوت الوصال عن النبي صلى الله عليه وسلم يصرف الأمر إلى الاستحباب. Le fait qu'on a que le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait ce qu'on appelle الوصال. On va l'expliquer. Cela prouve que الصحور ce n'est pas une obligation. Qui connaît الوصال? Normalement on va l'étudier inshallah ta'ala. Qui connaît Al-Wisal? Jusqu'à quand? Naam. Al-Wisal, c'est le fait de jeûner deux jours consécutifs. J'espère qu'il y en a me dire, mais comment on jeûne deux jours? Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Je ne détaille pas plus que ça. On aura l'occasion qu'on en va traiter les hadiths concernant Al-Wisal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a jeûné deux jours consécutifs, sans rompre le jeûne, c'est-à-dire dans la première journée. C'est-à-dire, il a complété. C'est-à-dire, quand il a complété, certes, il n'a pas fait ni la rupture du jeûne, ni as-sahur. C'est pour ça, les ulama, ils ont dit, à partir de son acte, et de le fait qu'il a fait al-wisal, c'est-à-dire, al-wisal, c'est-à-dire, il a continué deux jours. Wasala. Yawman biyawm, al-wisal. Il a complété deux jours, il a jeûné deux jours consécutifs sans rompre le jeûne. Et ça, on va voir, est-ce que c'est particulier, c'est propre au prophète sallam, ou est-ce qu'on peut le faire? On aura l'occasion de l'expliquer, inshallah ta'ala. Mais cela prouve que, c'est la raison pour laquelle, qui prouve que ce n'est pas une obligation. Pourquoi? Parce que si c'était une obligation, il devra le faire. Il devra le faire, et cela prouve que, à partir de cela, il prouve que le jugement de at-tasahhur, ou as-sahur, il est préférable. Wallahu ta'ala a'lam. Le quatrième hadith, qui peut nous rappeler le troisième hadith, an Anas ibn Malik radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tasahharu fa inna fi as-sahur. Faites attention de prononcer as-suhur baraka. Non. فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً. Le quatrième hadith. عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الآذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. D'après Anas, selon Anas ibn Malik, d'après Zayd ibn Thabit, qu'Allah soit satisfait d'eux, a dit tasahharna, c'est-à-dire on a mangé, on a pris le repas de fin de nuit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il s'est levé pour faire la prière. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala Anas. Le rapport du hadith, Anas ibn Malik, il a dit. Qultu li Zayd. J'ai dit à Zayd. C'est-à-dire il a interrogé. Kam kana bayna al-adhani wa-suhur. Combien ou quel est le temps qui était entre Al-Adhan et Al-Suhur. Entre l'appel de la prière du l'aube et Al-Suhur qui est le repas ou l'acte. L'acte. On a dit Sahur, c'est le repas. Et Suhur, c'est l'acte. Taïb. Donc il a dit quel est le temps qui était entre l'appel de la prière du l'aube et l'acte, c'est-à-dire le repas, le fait de prendre le repas de fin de nuit. Il a répondu, قال, قَدْرَ خَمْسِينَ آيَةً, c'est-à-dire la lecture de 50 versets. C'est le temps, c'est-à-dire le temps qu'il a déterminé, le prophète, c'est-à-dire Sahabi Zayd, il a dit, قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً, le temps de lecture de 50 versets. Le sens du hadith, ou ce qu'on tire du hadith directement, أَفْضَلِيَةُ تَأْخِيرِ السَّحُورِ إِلَى قُبَيْلِ الْفَجْرِ. Ce qu'on tire du hadith, qu'il est préférable, ou bien, de retarder, de prendre le repas de nuit, juste avant l'aube. Deuxièmement, أَلْمُبَادَرَةُ بِصَلَاتِ الصُّبْحِ حيث قربت من وقت الامساك. C'est-à-dire de se précipiter ou faire la prière de l'aube. حيث قربت من وقت الامساك. Faire cette prière de l'aube, elle est juste ou juste avant ou juste après le temps de l'imsak. Troisièmement, أن وقت الامساك. Donc le terme al-imsak, c'est le fait de s'abstenir ou de s'arrêter de manger. C'est le temps, c'est ce qu'on appelle al-imsak. Anna waqt al-imsak huwa tulu' al-fajr. Et ça c'est une faïda très importante. Le temps de s'abstenir de manger ou de s'arrêter de manger boire, c'est quoi? C'est tulu' al-fajr. Tulu' al-fajr, c'est le temps au lever de l'aube, du l'aube. C'est le temps où on peut, où on a le droit, c'est-à-dire la limite, où on peut manger et boire. C'est le tolour al-fajr. Comme a dit Allah Ta'ala, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَجِ مِنَ الْفَجْرِ. وَبِهَذَا, une faïda, وَبِهَذَا نَعْلَمْ أَنَّ مَا يَجْعَلُهُ النَّاسُ مِنْ وَقْتَيْنِ وَقْتٌ لِلْإِمْسَاكِ ووقت لطلوع الفجر بدعة ما أنزل الله بها من سلطان وإنما هي وسوسة من الشيطان ليلبس عليهم دينهم وإلا فإن السنة المحمدية أن الإمساك يكون على أول طلوع الفجر. الشيخ رحمه الله تعالى جي et de cela on déduit que ce qu'ils font les gens de mettre deux temps. Le premier, c'est le temps de l'imsak, c'est-à-dire à mettre un temps pour s'arrêter de manger et boire, qui est, on le trouve malheureusement dans les calendriers, estimé à 10 minutes ou un quart d'heure. Et le deuxième temps, c'est le temps du lobs, c'est le temps de la prière. Il a dit le fait de considérer cela, c'est-à-dire de distinguer ou de mettre deux temps, un temps pour l'imsak et un temps pour la prière, c'est une bid'a, c'est une innovation. Ma anzala Allah biha min sultan wa innama hiya waswasatun min ash-shaytan. Cela, c'est une waswasa de shaytan. Li yulabbisa alayhim dinahum wa illa fa inna as-sunnah al-muhammadiyyah. As-sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam montre que al-imsak, c'est-à-dire le temps pour s'abstenir et à s'arrêter de manger et boire, c'est le temps, c'est tolo al-fajr, c'est le lever du lot, c'est-à-dire le temps de la prière. C'est pour ça, même si on se lève une minute avant le temps de la prière, on peut manger et boire. Et il n'est pas obligatoire de prendre en considération ce temps de s'abstenir de 10 minutes, c'est-à-dire une personne s'il se lève ou se réveille 10 minutes ou 9 minutes avant le temps de la prière, Il ne peut pas faire sahur, oui ou pas? D'après ce temps qu'ils l'ont déterminé. En réalité, non. Ce temps, il est nulle part, ni dans le Coran, ni dans le Sunnah, et c'est le contraire. Le verset qui dit
وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضِ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْخَيْطِ.
Le verset coranique, il montre bien que qu'on mange et on boit jusqu'à qu'on arrive, on atteint ce temps qui est l'aube, qui est le temps de la prière, et non pas prendre en considération et mettre un temps qui, on le remarque souvent dans les calendriers, ils mettent 10 minutes avant l'aube. Non, celui qui n'a pas pu ou s'est réveillé 10 minutes, à partir du moment l'heure de la prière n'est pas rentrée, il a toujours le temps pour manger et boire et faire toute chose. Il peut faire même le jima. Il peut faire même le jima, c'est pas manger et boire. À part ces deux moments, il n'est pas encore l'aube. Donc c'est-à-dire pour déterminer le début du jeûne, on se base sur Tolo al-Fajr, c'est l'aube. Ni imsak ni autre chose. Et on se base pour la fin de la journée, c'est pour la rupture, c'est-à-dire le coucher du soleil. Ils sont clairs, ni 10 minutes avant, ni 10 minutes après, parce que le sunnah du prophète sallam a bien déterminé cela, wallahu a'lam. Le dernier hadith d'aujourd'hui, c'est le hadith de Aïcha et Umm Salama. Qui peut nous rappeler le quatrième hadith? An Anas ibn Malik. An Zayd ibn Thabit. رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلت لزيد كيف قال لي كم كان بين الآذان والسحور. Dans ce hadith, on a As-Suhur Bidhamma. Le premier hadith qu'on a, le hadith précédent, Tasaharu fa inna fissahuri baraka. Ce hadith, Kam kana bayna al-adhani wa-suhuri. Qal, Qadru khamsina aya. Walhamdulillah. Le second hadith est le dernier. An Aishata wa Ummi Salamata radiallahu anhuma. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم. دابري عائشة رضي الله عنها أم سلمة رضي الله عنهما كالله سوصت في دو que le prophète صلى الله عليه وسلم que le prophète صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر que l'aube atteignait le prophète صلى الله عليه وسلم. Et lui, il était en état de junub, c'est-à-dire une impureté majeure. ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. Ensuite, il faisait le bain rituel, ou les grandes ablutions, et il jeûnait. Donc ça, c'est le prophète, c'est le hadith rapporté par Aïcha et Ummi Salama. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وهو جنوب من أهلي. كيف تترجمها بال يعني سيدة كما تبقى تخدر exactement si tu peux عبد الرحمن نعم que le prophète صلى الله عليه وسلم arrivé à l'aube et il était en état d'impureté majeure avec ses femmes. ثم يغتسل. Ensuite il faisait le bain rituel, c'est-à-dire les grandes ablutions, et il jeûnait. ما يؤخذ من الحديث. Ce qu'on tire du hadith, c'est un résumé. أولا صحة صوم من أصبح جنوبا من جماع في الليل. La validité du jeûne de celui qui s'est réveillé avec une impureté majeure. ثانياً, deuxièmement, يقاس على الجماع الاحتلام بطريق الأولى لأنه إذا كان مرخصا فيه من المختار فغيره أولى. On fait l'analogie, donc la première la faïda, ce qu'il a tiré Cheikh Rahim al-Rawda, il a dit la validité du jeûne de celui qui s'est réveillé avec une impureté majeure, même si cela à cause d'un à cause du coït, le rapport sexuel. Deuxièmement, on fait l'analogie avec cela, c'est-à-dire la validité du jeûne de celui qui a fait un rêve érotique, c'est ça, l'ihtilam. Il a fait un rêve érotique, c'est-à-dire en faisant l'analogie avec al-jima', c'est-à-dire vu que al-jima' il est fait volontairement, et malgré cela, même si la personne l'a fait, c'est-à-dire on parle le rapport se fait dans la nuit, c'est-à-dire avant l'aube, c'est pas dans la journée. La journée, ça c'est c'est le hadith numéro 7. On aura l'occasion de parler quel est le jugement de celui qui fait le rapport, c'est-à-dire dans la journée. Là on parle le faire le couïd dans la nuit, et c'est le prophète sallam, il a dit, ou Aïcha yom sallam, elle a dit anna rasul sallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junub min ahlihi, c'est-à-dire il était en état d'une impureté majeure, c'est-à-dire il atteignait l'aube et il était en état d'une grande impureté à cause du coït fait avec ses femmes. Donc il a tiré que la validité du jeûne de celui qui a fait le coït, c'est-à-dire dans la nuit, c'est-à-dire son jeûne dans la journée, il est valide, ça n'affecte pas son jeûne. Et Cheikh, il a déduit que le fait de se réveiller avec un rêve érotique, il est aussi, cela n'affecte pas son jeûne, et en faisant l'analogie avec le coït qui est fait volontairement. C'est-à-dire si le coït qui est fait volontairement, qui est fait dans la nuit, cela n'affecte pas le jeûne, c'est-à-dire dans la journée, donc certes par priorité, celui qui se réveille et il a fait un rêve érotique involontairement, cela certes, cela aussi n'impacte pas son jeûne. Troisièmement, أنه لا فرق بين الصوم الواجب والنفل ولا بين رمضان وغيره. Ce jugement s'applique sur le jeûne du Ramadan et le jeûne du jeûne obligatoire ou le jeûne surrogatoire, et soit pendant le Ramadan ou en dehors du Ramadan. Quatrièmement, جواز الجماع في ليالي رمضان ولو كان قبيل طلوع الفجر. Ça, ce qu'on vient de, on vient de citer, le cheikh il a dit la permission de faire le coït dans les nuits du Ramadan, même si cela c'est juste avant l'aube. C'est pour ça qu'on dit, ceux qui prétendent il faut s'abstenir de manger et boire et tout faire avant, non. Pendant ce temps, il est permis de faire même le coït. وَأَخَذَ بَعْضُهُمْ جَوَازَ الصِّيَامِ مِنَ الْجُنُوبِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ لأن الآية تقضي جواز الجماع في ليل الصيام كله ومن جملته الجزء الذي قبيل الفجر بحيث لا يتسع للغسل فمن ضرورته الإصباح جنبا وهذه دلالة الإشارة عند الأصوليين. Donc Cheikh il a donné un détail, il a justifié ou il a donné un autre argument pourquoi celui qui sera en état de jeûne, c'est-à-dire une impureté majeure, en état du jeûne, cela son jeûne il est valide, il s'appuie sur le verset où Allah Ta'ala il a dit أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. Comment on peut traduire le sens? نعم بارك الله فيك. فالآية تقضي جواز الجماع في ليلة الصيام. Ce verset montre que la permission de faire le coït dans toute la nuit, dans toute la nuit. والجزء الذي قبل الفجر, et le temps qui est juste avant l'aube, il fait partie de la nuit. Donc c'est pour cela il est permis de faire même pendant ce temps al-jima'. Donc si dans ce temps il est permis de faire le jima', certes par priorité, il sera en état de c'est-à-dire le temps qui court, c'est-à-dire qui pourra pas faire son bain rituel, certes, il sera, c'est-à-dire en état du jeûne, mais avec une impureté majeure, et cela n'infecte pas son jeûne. Donc, c'est le jugement, c'est-à-dire le jugement à tirer de ce verset. Et dernièrement,
خامساً فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وإحسانهن للأمة.
Cinquièmement et dernièrement, on va terminer, c'est la bienfaisance des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers la communauté. Et remarquons pourquoi Cheikh Al-Bassam il a tiré cette leçon. Pourquoi il a dit que la bienfaisance des femmes, sachant que c'est un hadith qui traite le jeûne. Ahsan. Parce que pour la pour c'est-à-dire qui nous a rapporté ce hadith? C'est les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est eux, ils connaissent mieux, ou peut-être c'est les seuls qui connaissent l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout quand il est en état de grande impureté, en état de janaba. Et quand même, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont rapporté le hadith, c'est-à-dire l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب هنا الواو والحال يعني وحاله جنوب وهو جنوب من أهله ثم يغتسل.
Ensuite, il faisait le bain rituel ou les grandes ablutions et il jeûnait. Et c'est les femmes du prophète, les deux femmes du prophète sallam, qui ont rapporté ce hadith.
فقد نقلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الشيء الكثير النافع إذ سيما الأحكام الشرعية المنزلية التي لا يطلع عليها إلا هن من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم فرضي الله عنهن وأرضاهن.
Donc il a terminé en donnant cette faïda que les femmes du prophète, c'est eux qui rapportaient les choses qui sont faites dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que certes, c'est les femmes qui vivaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est eux, c'est elles seules qui connaissaient l'état ou ce qu'ils faisaient dans la maison, et en particulier dans la maison. Et cela, certes, c'est des choses, c'est des événements faits dans la maison, et c'est les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont rapporté cela. Et ce qu'on a tiré de ce hadith, que même si, parce que pourquoi ce hadith, il y a une autre faïda aussi, parce que certains pensent que se réveiller avec un état de grande impureté, cela invalide le jeûne. Non, le hadith il fait preuve que celui qui se réveille, même s'il a fait le jima, c'est-à-dire il a fait le kouït, ou il a fait, c'est-à-dire volontairement, ou il a fait un rêve érotique, c'est-à-dire involontairement, cela infecte nul son jeûne, et son jeûne, inshallah ta'ala, il est valide, et la preuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se réveillait, c'est-à-dire il atteignait l'aube en état c'est-à-dire avec une impureté majeure, et pourtant cela, il faisait le bain rituel pour se purifier, comme vous le saviez, et aussi il jeûnait, et cela n'affectait pas nul son jeûne. Wallahu ta'ala a'lam. Et on termine cela avec les cinq hadiths. Qui peut nous rappeler le dernier hadith par cœur? An Aisha radiallahu anha wa Ummi Salama. Ta. Radiallahu anhuma. Non, il n'y a pas qala. Il n'y a pas qala. Kana. Parce que c'est eux-mêmes qui rapportent. C'est pas ils ont entendu, c'est eux-mêmes qui rapportent. Na'am. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصلي ثم يغتسل ويصوم عفوا. Donc ça c'est les cinq hadiths d'aujourd'hui. On se limite à cela inshallah ta'ala, et demain يوم السبت نعم, et demain inshallah ta'ala même heure après l'asr, on terminera les hadiths du 5 au 10. Inch'Allah Ta'ala, tirer de ce livre en lisant les hadiths et les leçons tirées de ce hadith. Wallahu ta'alam, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayr.